Les actualités du sel, Daniel Hillion, au micro de David Alonso.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission mensuelle du sel avec Daniel Hillion. Nous parlons souvent de l'engagement de nos partenaires sur le terrain, nous sommes souvent inspirés par ce qu'ils font, mais ça peut nous laisser parfois aussi le sentiment qu'il nous est difficile d'être à leur hauteur et d'être capable d'aller aussi loin. Pourtant Dieu attend de nous, attend de moi, attend de chacun d'entre nous, un engagement, mais quel est-il et comment cela peut-il se concrétiser ici en France? Daniel, est-ce que tu as quelques idées?
Alors la première chose que je voudrais répondre à cette question, c'est que je crois que face à la pauvreté, Dieu attend de nous que nous décidions de faire une place pour ceux qui vivent dans la pauvreté dans notre vie. Par contre, cette place ne sera pas la même et ne prendra pas la même forme d'une personne à l'autre. La place que nous allons donner aux pauvres dans notre vie sera très différente selon que vous êtes un enfant, un boulanger, un pasteur, un chef d'entreprise, un chômeur, une personne gravement handicapée ou le président de la République. Chacun d'entre eux a un certain type de responsabilité face à la pauvreté, qui peut être petite, qui peut être grande, qui va s'exercer de manière extrêmement différente. Et nous n'avons donc pas à nous culpabiliser si notre engagement ne ressemble pas à celui de notre voisin. La question qu'il nous faut nous poser, c'est « Et moi, quelle place est-ce que je pourrais faire pour les personnes qui vivent dans la pauvreté ?»
Est-ce qu'on est obligatoirement d'innover ou est-ce qu'on peut regarder autour de soi et essayer de trouver sa voie à travers les exemples que l'on voit ?
Trouver sa voie à partir des exemples que l'on voit, c'est peut-être un très bon moyen de commencer. Autrement dit, s'inspirer des autres sans les copier. Essayer de partir à la découverte de ce que d'autres font aujourd'hui face à la pauvreté. Pas forcément pour dire « bon, ils me donnent le modèle et je vais essayer de suivre les gestes qu'ils font de manière automatique et s'ils ont décidé de s'engager dans ce domaine, je ferai exactement la même chose », mais peut-être parce que, prenons un exemple, nous avons une personne avec qui nous travaillons au SEL qui s'appelle Marthe, elle est engagée dans le travail auprès des enfants au Burkina Faso et elle a toute une expérience dans ce domaine qui lui vient à la fois de son grand cœur, il faut bien le dire, mais aussi de toute l'expertise professionnelle qu'elle a acquise au fur et à mesure des années pour savoir comment s'occuper des enfants. Bah, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous vous dites « waouh !» Et puis en même temps, vous vous dites « mais je pourrais jamais faire la même chose qu'elle ». Mais par contre, son amour pour les pauvres et son amour pour Jésus qu'elle cherche à manifester dans ses relations avec les enfants dont elle s'occupe, ça pourrait me donner des idées sur ce que je peux faire dans la sphère de responsabilité, la sphère d'influence, la sphère de contact qui est la mienne.
Quand on pense aider les pauvres, on pense souvent en don. C'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il faut penser plus large ?
Il faut sûrement penser plus large, mais il ne faut pas penser moins large. C'est-à-dire que dans l'action face à la pauvreté, à mon avis, rien ne remplace la pratique du don, hein, ce qu'on appelait l'aumône, hein, le fait de savoir donner, alors soit de savoir donner financièrement à quelqu'un qui vous demande, soit de donner, par exemple, de donner à manger à quelqu'un qui a faim, mais la pratique personnelle, d'après l'évangile, discrète aussi, coûteuse parfois, de l'aumône, doit certainement avoir une place dans notre vie. Il y a plein d'autres manières de s'engager, mais je dirais que si on n'est pas capable de faire une place pour les pauvres dans son budget, si on n'est pas capable d'ouvrir son porte-monnaie, dans la plupart des cas, c'est qu'il y a un petit problème. Bien sûr, il y a des cas extrêmes où si vous êtes un enfant, vous pouvez pas forcément, vous n'avez pas d'argent et vous n'allez pas pouvoir donner. Il y a des cas dans lesquels si vos fins de mois sont tellement serrées, vous n'allez pas pouvoir donner. Mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, et même si c'est un tout petit peu, le don financier concret, ça fait partie du béaba de l'action en faveur de ceux qui vivent dans la pauvreté.
On nous dit souvent que plutôt que de donner, je préfère en fin de compte aider concrètement les personnes. Qu'est-ce que tu en penses ?
L'un n'exclut pas l'autre. Et ce qu'il y a de vrai dans cette idée, c'est que je pense que ça nous rappelle quelque chose de ce que la Bible nous dit de nos relations les uns avec les autres. Quand la Bible nous parle des autres, elle utilise le mot « prochain ». Donc, quelqu'un qui est proche, quelqu'un que Dieu met sur notre chemin, et ça nous rappelle l'importance fondamentale des relations dans la vie telle que Dieu l'a voulu pour l'humanité. Et c'est sûr que à un moment ou à un autre, Dieu va mettre sur notre chemin des personnes qui sont marginalisées d'une façon ou d'une autre. J'imagine que souvent, pour beaucoup d'entre nous, il y aura des pauvres dans ces personnes marginalisées. Parfois, des personnes qui seront sur notre chemin de manière assez évidente et régulière, si on vit dans un quartier où il y a de la pauvreté, par exemple, ou si on a des gens dans notre église qui sont dans des situations difficiles. Et puis parfois, de façon un peu plus impromptue, chacun se souvient de la célèbre parabole du bon samaritain. Il n'a pas cherché le blessé sur le chemin, ça lui est tombé dessus, et il a fallu trouver un moyen de réagir. Et d'une manière ou d'une autre, on a à construire aussi des relations, soit pour un tout petit peu de temps, comme le bon samaritain, soit sur la durée, avec des personnes qui sont marginalisées d'une façon ou d'une autre. Et on peut se poser la question, et pourquoi pas des gens qui vivent dans la pauvreté. Je rajoute juste une chose. C'est vrai que nous, au CEL, l'un de nos principes de base, c'est de soutenir le travail d'organisations chrétiennes locales dans des pays en développement. Ce qui fait que on ne donne pas tant que ça la possibilité aux gens en France de rentrer en relation avec des personnes pauvres, parce que ça, c'est nos partenaires locaux qui le font. Mais il y a quand même un tout petit quelque chose, et ce tout petit quelque chose peut être un moyen de se mettre en route, c'est la correspondance dans le parrainage. Et dans le parrainage, on offre la possibilité aux parrains et aux marraines d'envoyer un message d'espérance à un enfant qui vit dans la pauvreté. Certainement, c'est pas le tout de rentrer en relation avec des pauvres, mais si ça commençait par là. Et si vous vous dites que c'est trop facile, ben essayez, vous verrez, c'est pas toujours si simple que ça d'écrire une lettre à un enfant qui vit dans la pauvreté, et ça peut être une très belle manière de commencer.
On voit souvent dans nos publics, surtout sur les réseaux sociaux, que pour eux, aider, c'est simplement, par exemple, partager la nouvelle avec leur réseau, avec leurs amis. Est-ce que c'est aussi une façon d'aider valable, de partager et de propager la nouvelle ?
C'est une façon d'aider tout à fait valable parce que déjà, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas énormément de moyens, mais qui sont extrêmement douées pour communiquer et qui sont aussi des personnes qui sont douées pour fédérer les autres et qui sont capables, lorsque elles ont été convaincues par une cause, d'expliquer de manière simple et convaincante aux gens qui sont autour d'elles que cette cause, elle en vaut vraiment la peine. Mais c'est aussi vrai de manière plus large, dans le sens où un certain type de mouvement dans la société ne marche que les gens sont sensibilisés à un certain type de problématique. Par exemple, on parle un petit peu, c'est d'économie circulaire, de l'importance de recycler, de l'importance de ne pas toujours faire des choses qu'il va falloir jeter et qui vont polluer parce qu'il n'y a pas de nouvelle utilisation possible. Le fait que ce genre de mesures puissent être prises par les pouvoirs publics présuppose que pendant des années avant, il y a eu des personnes convaincues qui ont un petit peu éveillé les consciences autour d'elles, ce qui fait que si des décisions sont prises, il y aura suffisamment de gens dans la société qui diront « Ah bah oui, mais c'est très bien qu'enfin on prenne ce genre de décision et qu'on l'encourage. » Donc, répandre ce genre d'idées de manière toute simple en partageant un article, en signant une pétition, en échangeant dans des débats d'idées, eh bien, c'est aussi une manière de faire bouger les choses, pas en instantané, mais sur une durée plus longue, et ça compte.
Que penses-tu de la prière dans le cadre de l'aide aux pauvres ?
Alors, la prière, c'est bien sûr quelque chose de fondamental pour un chrétien, et ça devrait être quelque chose de fondamental pour les églises. Je me dis que c'est important, je sais que tout le monde ne penserait pas comme moi, mais c'est important que l'église reste l'église et qu'elle ne se transforme pas en organisation sociale. Par contre, que les questions de pauvreté rentrent dans nos cultes, en particulier au moment de la prière de l'église, ça c'est très important. Ça veut dire des choses toutes simples. Ça veut dire que lorsque il y a eu une catastrophe qui s'est produite dans un pays du monde quelque part, que le dimanche suivant, on prie pour cela dans l'église et que les chrétiens individuellement prient pour cela. Ça veut dire de manière plus régulière que les questions de faim, les questions d'éducation, que les questions aussi d'injustice nourrissent la prière régulière de l'Église. Autrement dit qu'à l'Église, on ne prie pas uniquement pour soi ou pour ses tout proches, mais aussi pour l'ensemble de la société, pour le bien commun. Et puis, je ferai aussi remarquer que au milieu de la Bible, il y a un livre de prière merveilleux qui s'appelle les psaumes, et que les psaumes sont composés de chants de louange et de victoire, mais aussi de cris d'appel à l'aide, de reconnaissance de son indignité, de colère contre l'injustice, et que tout ça, ça devrait s'entendre dans nos cultes, parce que comme ça, si un pauvre pousse la porte de notre église et qu'il entend cela, il peut se dire « Ah, ça c'est du sérieux, et ces paroles qui sont adressées à Dieu, je peux me les approprier et les dire moi aussi. »
Merci beaucoup Daniel pour cette belle mise en avant de la prière. Et justement, en parlant de prière, tous les ans, le CEL participe à une opération qui s'appelle Viva. Et Viva est là, et Viva arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et en quoi cela concerne nos auditeurs ?
Alors Viva, c'est un réseau qui organise chaque année un week-end de prière pour les enfants en danger. Et ce week-end, c'est le premier week-end du mois de juin. Et chaque année, le CEL relaye l'information. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit guide de prière qui est mise à disposition de tous ceux qui souhaitent le télécharger sur Internet, avec des propositions d'activités et des propositions de sujets de prière sur différents points. Alors, cette année, les choses sont autour de la louange. Le titre, c'est « Les générations le louent ». Et vous avez sur différents sujets, d'abord des histoires positives dans différents domaines, et puis à côté de ces histoires positives, des activités et des sujets de prière. Et ce que nous voudrions encourager un peu tout le monde à faire, et notamment les églises, c'est à prendre un temps pour prier pour la situation des enfants dans le monde, en sachant que, oui, il y a énormément d'enfants dans le monde qui sont dans des situations de fragilité. En réalité, par définition, un enfant est fragile. Certains sont dans une situation de fragilité à cause de la pauvreté, et d'autres sont en situation de fragilité à cause de la prospérité. Parce que, comme disait, je cite de mémoire une formulation de ce texte évangélique qui s'appelle « L'engagement du cap », il y a plein d'enfants qui n'ont pas assez pour vivre, et puis il y a des enfants qui n'ont pas de but dans la vie pour lequel vivre. Et donc, prier pour les enfants, c'est quelque chose qui est important et qui nous tient très à cœur au CEL, dans la mesure où énormément d'actions de nos partenaires sont soit directement liées aux enfants, comme le parrainage ou les tickets repas, soit ont de toute façon un retentissement sur les enfants, parce que, par exemple, quand vous améliorez l'accès à l'eau d'une communauté, eh bien, les enfants sont parmi les premiers à en bénéficier.
Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que nous pouvons trouver ce document ?
Le mieux, c'est d'aller sur le site internet du CEL, www.celfrance.org.
Merci beaucoup, Daniel. Nous nous retrouvons donc le mois prochain pour notre émission mensuelle du CEL et de ses actualités. Merci beaucoup.